Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Décryptage consacré ce soir aux 10 ans de la mort de Muammar Kadhafi en Libye. Le 20 octobre 2011, dans le sillage du printemps arabe, le dirigeant, alors en fuite, est capturé par des combattants près de Sirte, dans le nord du pays, avant d'être lynché et exécuté. La mort de Muammar Kadhafi a été facilitée par une intervention internationale controversée sous l'égide de l'OTAN. Elle marquera la fin de 42 ans de règne autoritaire, mais aussi le début d'une décennie de chaos dont la Libye peine aujourd'hui encore à se relever. Alors 10 ans après, que reste-t-il du kadhafisme? L'ombre du guide continue-t-elle de peser sur la Libye? Et le clan Kadhafi peut-il jouer un rôle dans les élections qui se profilent, la présidentielle du 24 décembre et les législatives prévues en janvier 2022? On en parle pendant 20 minutes avec nos invités, mais d'abord je vous propose de revivre cet événement historique à travers ces quelques extraits sonores tirés de nos archives.
C'est un moment historique, la fin de la tyrannie et de la dictature.
Après 42 ans de pouvoir, l'ex-guide libyen a donc été capturé aujourd'hui. Il serait mort dans les environs de sa ville natale de Sirte.
Les combattants pro-CNT m'ont montré, plusieurs d'entre eux ont des vidéos sur leur téléphone portable de la capture de Muammar Kadhafi. On peut voir l'homme à terre, à genoux, saignant, coué de coups.
Je n'ai pas de mots pour décrire mes émotions et je n'ai pas de voix. Nous vivons des moments fous depuis 3 jours.
From 3 days ago.
Give us a few years.
Donnez-nous juste quelques années et vous verrez, les Libyens vont montrer au monde qu'ils sont pacifiques. Vous verrez, la Libye, ce sera un beau pays.
Voilà, la Libye sera un beau pays, une phrase qui témoigne des espoirs soulevés à l'époque par la chute de Muammar Kadhafi. Bonsoir Virginie Colombier.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse à l'Institut universitaire européen de Florence en Italie, spécialiste de la Libye. Et en ligne avec nous également, Jalel Archaoui, chercheur spécialiste de la Libye au sein de l'ONG Global Initiative, basée à Genève en Suisse. Bonsoir et bienvenue à vous.
Bonsoir.
Jalel Archaoui, d'abord sur le terrain, en Libye, est-ce que ces 10 ans de la mort de Kadhafi, est-ce qu'ils sont commémorés ou célébrés?
Il y a 5 minutes de silence qui est observé par ceux qui se sentent loyaux à la mémoire de l'ancien dictateur. Mais pour que cela soit visible, il faut vraiment aller dans des endroits où l'ensemble de la municipalité, où il y a des communautés entières qui se disent kadhafistes, comme par exemple la ville de Bani Walid. Mais si on va au centre-ville de Tripoli, même s'il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de manifestation comme ça très visible, comme on a pu le voir pour le 10e anniversaire de la Révolution, donc l'événement qui a mis fin justement au règne de Kadhafi. Donc c'est fait plutôt en catimini, il n'y a pas de chasse aux sorcières, il y a, je dirais, une acceptation plus grande qu'il y a quelques années, mais ce n'est pas quelque chose de visible dans les plus grandes villes.
Virginie Colombier, 10 ans après la mort de Kadhafi, la Libye reste un pays divisé, en proie à la violence encore. Aujourd'hui, très concrètement, pour dresser un petit peu le panorama du pays, qui contrôle quoi en Libye?
Bon, il n'est pas très clair de répondre à cette question. Il n'est pas très facile d'y répondre. Le pays est depuis mars 2021 officiellement réuni sous l'égide d'un gouvernement d'unité nationale qui a été formé au terme d'un processus de médiation mené par les Nations Unies qui a été assez long. Donc on a un gouvernement qui est beaucoup plus inclusif et une façade en tout cas de réunification institutionnelle. Mais dans les faits, on a toujours ce gouvernement qui est basé à Tripoli et qui est en position, disons, de plus ou moins confrontation, collaboration avec ce qui reste du Parlement qui est toujours basé dans l'Est du pays. Et de fait, l'Est du pays est en grande partie sous le contrôle en fait des forces alliées au général Haftar et des forces armées qui lui sont fidèles et qui sont placées sous son contrôle. Mais dans les faits, on n'a aucun de ces acteurs qui est réellement en capacité de contrôler le territoire. Même si On a quand même du côté également du gouvernement d'unité nationale à Tripoli, il y a eu une capacité au cours des dernières semaines, derniers mois, à acheter entre guillemets la légitimité ou en tout cas le soutien d'une partie de la population dans l'Ouest. On en reste dans une situation de fracture malgré tout et de divisions qui sont très profondes au sein de la société, mais aussi au sein de la scène politique.
Et justement, vous parlez de la population libyenne. Jalel Harchaoui, est-ce qu'il y a chez une partie de la population libyenne une certaine nostalgie des années Kadhafi, avec cette idée que finalement la situation était peut-être moins chaotique sous Kadhafi?
Oui, alors évidemment, si une famille précise a été la victime des pratiques tortionnaires de Kadhafi, évidemment, ces familles-là ne vont jamais ressentir de la nostalgie pour cette période-là. En revanche, si on parle à des familles qui avaient une situation, qu'elle soit modeste ou non, qu'elle soit privilégiée ou non, qui était plutôt calme avant 2011, il y a évidemment ce moment inéluctable dans la conversation où la personne va vous dire que finalement il y avait une certaine dignité, il n'y avait pas de liberté politique, mais il y avait une fierté d'être une Libye qui était manifestement plus riche que ses voisins, la Tunisie ou l'Égypte, ou peut-être que le système médical n'était pas parfait, mais disons qu'il y avait une sécurité, il y avait un toit sur la tête, il n'y avait pas de destruction journalière, il n'y avait pas l'humiliation de la guerre. Et donc le sentiment de nostalgie existe. Maintenant, est-ce que c'est un courant politique? Est-ce que c'est un parti politique? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment organisé? Je ne pense pas. Il y a forcément une déperdition si on distingue justement le sentiment nostalgique et qu'on essaye d'apercevoir à l'intérieur une véritable force politique capable de s'organiser. Je pense que c'est très éparpillé, ça a des significations différentes en fonction de la classe sociale, de l'endroit, de la période dont on parle, etc. Donc c'est extrêmement dispersé.
Et Muammar Kadhafi, qui est resté 42 ans, hein, on le rappelle, au pouvoir, a quand même une des particularités, c'est qu'il avait réussi à unifier le pays. On peut presque même dire qu'il avait posé les fondements d'un État-nation moderne. Virginie Colombier, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui du système Kadhafi en Libye?
Comme vous le dites, il y a une spécificité en quelque sorte du système politique libyen tel qu'il a été mis en place par Kadhafi, et qui était une sorte de combinaison très très complexe de jeux sur les leviers de l'influence sociale et l'influence communautaire et l'influence économique. Et en agissant en fait à travers ces leviers-là, le levier de l'influence communautaire et de l'influence économique, Kadhafi, grâce bien sûr à la richesse pétrolière et à la capacité de l'État ou du pouvoir central en tout cas à distribuer et à redistribuer, a réussi en fait à tenir le pays d'une manière assez équilibrée et d'une manière qui pour une partie des Libyens correspondait aussi d'une certaine façon à la complexité de la société libyenne. Ce qui s'est passé en 2011 et l'effondrement de ce système s'est traduit par une sorte de vide et surtout par l'incapacité des élites politiques après 2011 à mettre en place un système alternatif en fait. Et en dépit de l'organisation d'élections, de la formation d'un parlement, de différents gouvernements, il y a ce qui est ressenti par beaucoup aujourd'hui comme l'incapacité justement à proposer un modèle alternatif et un modèle qui fonctionne concrètement dans la réalité pour réorganiser en fait la société et faire en sorte que le pouvoir puisse être mis en œuvre. Et ce qui est frappant aujourd'hui, c'est justement cette faillite là qui bien sûr est vécue très mal par beaucoup de Libyens qui font porter à Kadhafi la responsabilité de cet échec à construire des institutions durables qui ont pu durer après la chute de son régime.
Et vous évoquiez à l'instant les élections auxquelles le pays se prépare, donc une présidentielle qui est prévue le 24 décembre et des législatives qui devraient suivre en janvier. Comment, Jalel Harchaoui, est-ce que les sympathisants de l'ancien régime, le régime de Kadhafi, se positionnent aujourd'hui par rapport à ces scrutins qui arrivent?
Bon, d'abord, il y a beaucoup de gens qui, à l'échelle de leur personne, se sentent extrêmement fidèles aux années Kadhafi, au système Kadhafi, ou voire à la personne Kadhafi, et qui dans les années qui viennent de s'écouler, disons à partir de 2014, 2016, de ces eaux-là, ont réussi à trouver leur place dans les factions post-2011. Il y a beaucoup de kadhafistes qui sont du côté du gouvernement de Tripoli, qui sont même à l'intérieur, qui occupent des postes. Et donc, on retrouve ça dans la population. C'est-à-dire qu'il y a des individus, des citoyens ordinaires qui pensent qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le sentiment qu'ils ont à l'intérieur et le fait qu'ils ont réussi à s'acclimater et à s'identifier avec des factions politiques qui sont clairement post-2011. Il y a aussi évidemment un espoir. Il y a même à la limite chez des gens qui sont très trop jeunes pour connaître la période de Kadhafi. Dans certains cas, il y a une réponse très émotive par rapport à un article comme le long article qui a été publié sur Saïf al-Islam en juillet par le New York
Times.
Par
le New York Times.
Oui. Et là, je voudrais quand même mettre en exergue l'immense. L'immense décalage qui existe entre le fait de rêver sur un article comme ça, la première photo publiée en 7 ans, et une réalité électorale, c'est-à-dire un candidat qui puisse être sûr que le processus va être intègre, qu'il va pouvoir survivre même s'il est complètement déconnecté de la vie telle qu'elle a pu être pendant 10 ans. Est-ce qu'il n'a pas beaucoup d'accès aux caisses publiques parce que pas suffisamment de connexions, pas de groupes armés qui soient organisés afin d'assurer la sécurité. Il y a toute une réalité qu'il faut pour passer du New York Times Magazine à un véritable scrutin où on peut faire un score important. Et je pense que le décalage est juste trop grand.
Et pour recontextualiser un petit peu ce que vous dites, je me permets de préciser que Saïf al-Islam est donc le fils, un des fils de Muammar Kadhafi, et que dans cette interview qu'il a accordée cet été au journal américain le New York Times, il explique qu'il envisage un retour en politique dans son pays, donc la Libye. Virginie Colombier, vous pensez qu'on doit s'attendre à une candidature de sa part à la présidentielle de décembre?
Le retour de Saïf est devenu une sorte de phénomène un peu médiatique et de phénomène presque sociologique. C'est vraiment un peu, on a une sorte d'image du Messie qui va revenir et qui va justement dans ce contexte de nostalgie et de grande désillusion par rapport à l'incapacité des élites politiques à reconstruire un ordre, il se positionne beaucoup par rapport à ça, comme s'il pouvait jouer ce rôle d'une figure rassembleuse. Comme le faisait remarquer Jalal, je pense malgré tout que ça va être très difficile parce qu'il va avoir une grande issue. Effectivement, il cherche à revenir. La difficulté à avoir des alliés suffisamment nombreux et suffisamment solides, ça reste une figure qui est très 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 porteuse de division, évidemment, du fait de ce qu'il représente et de l'héritage qu'il représente, même au sein des réseaux kadhafistes et des groupes qui étaient opposés à la révolution de 2011. Il ne faut pas oublier que Saïf représente aussi, et les gens qui étaient de son côté avant 2011, portent un peu une sorte de responsabilité morale de l'effondrement du régime, parce que le régime était déjà divisé en son sein avant même 2011. Et Saïf al-Islam représentait en fait ce projet politique de changement qui avait amorcé en fait le rapprochement aussi de la Libye avec l'Occident, qui avait commencé à faire rentrer au sein du régime des éléments qui étaient auparavant au sein de l'opposition. Et donc il y a toute une sorte de reproche qui est fait à Saïf au sein même du groupe et des réseaux en fait proches de l'ancien régime sur son rôle pré-2011. Donc moi aussi je pense que au-delà de l'aspect mythique et du rêve en quelque sorte qu'il essaye d'incarner, la réalité va être beaucoup plus difficile à affronter.
Mais justement, Jalal Harchaoui évoquait, et je rebondis sur ce que vous dites, Virginie Colombier, finalement cette forme de popularité dont Saïf al-Islam jouit, mais elle est basée sur quoi concrètement cette popularité? Parce que est-ce qu'il a un projet politique à proposer à la Libye?
Non, c'est juste qu'il a le mérite d'avoir survécu. Il n'a pas été tué comme son frère Mouattassem ou certains autres frères. Donc, comme il y a eu cette espèce de quasi-transition qui ne s'est jamais réellement faite, il n'a jamais été désigné par son père comme son successeur d'ailleurs. Il y a suffisamment de flou, il y a une distance temporelle, il y a 10 ans qui se sont écoulés, si bien que il y a pas mal, par exemple, de soutiens très loyaux, très puristes du père, qui détestent Saïf al-Islam, mais qui vont prétendre, pour la vitrine si vous voulez, qu'ils exigent ou qu'ils sont en tout cas favorables à un retour de Saïf, simplement pour sauver l'honneur ou sauver une espèce de dignité qui aurait été brisée. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment de nombreuses interprétations de ce personnage. Il y a aussi des gens plus jeunes qui pensent qu'il y a eu un moment d'espoir qui a été un petit peu incarné par ce jeune homme dans les années 2005-2010. Et le simple fait que ça leur rappelle ce petit moment un petit peu prospère, un petit peu pro-occidental, comme le disait Virginie, eh bien c'est suffisant pour évoquer des choses plutôt positives. Donc ça peut être très vague, et j'insiste sur le fait qu'il y a vraiment 1000 interprétations de ce même personnage. Mais son principal mérite, c'est qu'il est encore vivant et qu'il peut poser pour une photo et qu'il attend qu'une espèce de magie se fasse. Est-ce qu'il a un programme? Est-ce qu'il a une vision? Non, il n'en avait pas à l'époque. Il a fait beaucoup d'erreurs dans le passé, jusqu'au dernier moment, jusqu'en février 2011. Il a changé de bord plusieurs fois, il a été complètement incohérent, et d'après son interview pour le New York Times, il est toujours tout aussi incohérent.
Et justement, on a un petit peu le sentiment aujourd'hui que finalement la mémoire des atrocités commises sous le régime Kadhafi s'est un peu estompée, avec cette idée que finalement les dysfonctionnements d'avant seraient devenus un petit peu dérisoires par rapport au chaos actuel. Est-ce que, Virginie Colombier, c'est quelque chose sur lequel les pro-Kadhafi surfent ?
Je ne sais pas s'il y a une sorte de mise en sourdine, en fait. On n'était pas près 2011 seulement dans une situation où il y avait des dysfonctionnements. Il y a de toute façon, de fait, un régime qui a fonctionné aussi par le biais de la répression. Mais on a eu au fil des années une sorte de réintégration, de retour progressif d'un certain nombre de personnages, parce que les deux camps politiques opposés ont essayé de se servir justement des réseaux de l'ancien régime pour accroître leur légitimité. Mais la question de la répression des crimes commis près 2011 reste un point majeur, et un point qui n'a pas été vraiment abordé et qui est aujourd'hui un obstacle majeur aussi à la réconciliation. Le sort même de Kadhafi auprès de la famille Kadhafi, ou de ce que souvent on appelle le clan Kadhafi, est un sujet extrêmement sensible et un obstacle majeur à une réconciliation dans le contexte actuel et dans le futur. Donc la question des crimes commis par le régime avant 2011, mais aussi des crimes commis après 2011 par les différents acteurs politico-militaires, est quelque chose qui reste et constitue un obstacle majeur à la stabilisation. Et jusqu'à présent, on n'a pas du tout la sensation que ces questions-là sont abordées. Elles restent très sensibles, mais elles n'ont pas été affrontées de manière directe.
Jalal Arshaoui, est-ce que vous pensez que la Libye pourra un jour retrouver son unité et sa stabilité, celle que les Libyens ont connue sous Kadhafi ?
Je ne pense pas qu'il faille percevoir les 42 ans de Kadhafi comme une espèce de repère ou d'une aspiration qu'il faudrait poursuivre. Je pense qu'une autre forme d'unité ou une autre forme de calme pourrait être tout à fait honorable et constituer un objectif suffisant. Moi, ce qui me frappe, c'est justement cette évolution depuis l'arrêt des violences qui étaient quasiment quotidiennes, hein, vraiment des violences guerrières qui se sont arrêtées en juin 2020. Aujourd'hui, il y a une espèce de laideur dans le calme qui existe aujourd'hui qui empêche certains observateurs de finalement se rendre compte qu'il y a une forme de reconstruction qui a commencé. Il y a peut-être qu'on dépense trop, mais il y a des centrales électriques qui sont reconstruites à l'est, comme en Tripolitaine, à l'ouest. Il y a un aéroport international qui est en train d'être construit. Il y a des tours, des centres commerciaux dans des zones qui étaient des zones de guerre il y a 18 mois. Ce qui me frappe, c'est qu'au fur et à mesure que cela se matérialise, ça n'a pas une capacité à vous frapper comme quelque chose qui soit une forme de paix réussie. Ça semble être laid, on parle surtout de corruption, on trouve que c'est cynique. Mais finalement, peut-être que ce cynisme, celui des dirigeants de Tripoli aujourd'hui, est une forme de pragmatisme qui pourrait permettre d'avancer petit à petit, peut-être trop lentement, vers une forme de calme qui s'avère durable.
Et si on est... Il nous reste 5 secondes. Je suis désolée, j'aurais aimé pouvoir poursuivre cette émission. Hélas, il est temps de rendre l'antenne. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé au décryptage du jour, Virginie Colombier et Jalal Arshaoui, spécialiste de la Libye, tous les deux.
Priorité santé.